cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre émission 100% locale, Cultivons notre jardin. Émission présentée par Nat et Jackie. Et voici Jackie. Salut Jackie.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Et toi?
Un peu tendu parce que c'est notre première émission en direct, donc... Toutes les premières, c'est un petit peu plus compliqué.
C'est rien de le dire. Vous verriez la tête de Jackie, il est très, très, très stressé d'après moi. Alors, dis-moi, de quoi on va parler aujourd'hui à tous nos gens? D'abord, on va leur répéter les petites infos d'usage, on va dire.
Hein, voilà, le changement d'émission. Hein,
voilà.
Dans ses jours de diffusion et dans son heure d'écoute.
Voilà, donc dorénavant, nous sommes diffusés le jeudi à partir de 12h30 et le dimanche...
Samedi.
Le samedi ? Le samedi à partir de 9h, bien sûr. Heureusement que tu es là, Jackie, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez toujours nous laisser vos petites questions. D'ailleurs, ça y est, les questions d'auditeurs commencent à arriver et on va pouvoir en parler en fin d'émission. Vous pouvez donc effectivement nous laisser vos messages, vos réactions, vos commentaires, vos questions par mail à redac@48fm.org ou bien sur la page Facebook de la radio. Voilà. Hein, Jackie ?
Voilà.
Et s'ils veulent réécouter nos émissions, les gens, comment ils font ?
Eh bien, ils vont sur www.48fm.org et ils vont retrouver la radio, la rubrique Cultivons notre jardin et toutes les émissions, donc, puisque là, on est à la 21e, donc toutes les émissions déjà enregistrées sont consultables.
Voilà, vous trouverez ça dans la rubrique MAG. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Jackie ? Il me semble qu'en cette saison, nous pourrions parler de...
Compostage,
Pourquoi pas, par exemple.
Hein. c'est d'actualité avec la ville de Mende, donc on va développer ça tout à l'heure. On est aussi à l'automne, donc il y a des greffes dont je voudrais bien vous parler, qu'on peut faire à l'automne. C'est en particulier des greffes d'arbres fruitiers à noyaux.
Oui. Tu y tiens beaucoup à ces greffes de fruitiers, Jackie, hein ? Et puis aux fruitiers tout court, d'ailleurs.
Aux fruitiers tout court, mais voilà. C'est une période où beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut greffer encore à l'automne. Hein. Au printemps, tout le monde le fait, à l'automne, c'est plus rare.
C'est vrai qu'on pense que c'est trop tard quand même, parce que la sève redescend à l'automne.
Je vous expliquerai tout à l'heure.
Bah, vas-y, on t'écoute. Hein.
Alors, on n'a pas de pause musicale, donc on va démarrer directement. Donc, sur la greffe d'automne. Alors, pourquoi est-ce qu'on greffe à l'automne, les arbres fruitiers à noyaux.
Oh.
Là, ça commence, hein, parce que j'avais en tête justement les greffes d'arbres à pépins qui peuvent se faire sans aucun problème au printemps. On a une réussite de 80-90% sur nos greffes. Et par contre, sur les arbres à noyaux, au printemps, on a autour de 60% de réussite. Donc, ce n'est pas la période optimum. La période optimum pour les fruitiers à noyaux, c'est bien à l'automne. On commence d'ailleurs après le 15 août sur les greffes en écusson. Et puis là, on peut prolonger encore maintenant tout le mois d'octobre, voire le mois de novembre, s'il est beau. On va pouvoir greffer les arbres fruitiers à noyaux.
Bon, vu le temps qu'on a jusqu'à maintenant, on peut se dire qu'il peut continuer de faire beau encore un peu.
Voilà,
là, on
tout
sait
va
pas
bien.
Trop.
Tout va bien. Il faut essayer de... greffer au moment de la lune montante, hein, de façon à ce qu'on ait un bon apport de sève. Alors la technique va être un petit peu différente de la technique du printemps, puisque en fait on n'a pas prélevé à l'avance nos greffons, on ne les a pas maintenus au froid, etc. On va pouvoir le faire directement. Quand j'ai décidé de greffer, je vais commencer par prélever mes greffons, donc prunier, cerisier, par exemple.
Alors, je t'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire prélever mes greffons, Jackie ?
Alors, pour prélever mes greffons, je vais déjà partir avec une petite glacière, avec de l'eau au fond, et je vais aller chercher sur mes arbres que je veux reproduire le bois de l'année, qui est à peu près la taille d'un crayon. Je vais donc couper une petite branche comme ça et instantanément couper les feuilles de façon à ce que le rameau ne puisse pas se sécher. Je vais couper les feuilles, mais garder les pétioles, hein, donc les petites tiges qui tiennent les feuilles aux branches. Et donc, je vais mettre ça dans ma glacière, bien au froid. Ensuite, mon porte-greffe, hein, qui peut être un jeune arbre ou un arbre plus ancien, où je vais pouvoir greffer à ce moment-là sur les branches, je vais pouvoir faire de la greffe à l'anglaise ou de la greffe enfante, comme je fais au printemps.
Mais bien sûr, de la greffe à l'anglaise, évidemment, Jackie, évidemment. Ou enfante, vas-y, raconte un peu.
Et alors donc, greffe à l'anglaise, c'est en fait quand je vais greffer un rameau sur une branche ou sur un porte-greffe qui a le même diamètre. Donc là, c'est toute une technique. Hein. Le principe, en fait, c'est de raccorder mes deux rameaux avec de faire bien coïncider le cambium.
Alors c'est un nom. Alors ça, tu nous l'as déjà fait. Le coup du cambium.
Donc on doit s'en souvenir. Le cambium, c'est la partie qui se situe entre l'écorce et le bois, donc où la sève circule, où la sève va monter.
D'accord.
Voilà. Greffe enfante, c'est donc sur un porte-greffe un petit peu plus gros. On dit en général à peu près de la taille d'un manche à balai. On va sectionner horizontalement ce bois et sur son pourtour, on va mettre deux greffons. Hein, une fois qu'on aura fendu, on fend notre bois en deux sur 3 cm à peu près. Et on va glisser de chaque côté un greffon, toujours en faisant attention de mettre en correspondance le cambium du porte-greffe et le cambium du greffon.
C'est quand même très technique comme geste. Hein. Vous allez faire des ateliers greffage là dans l'automne avec tes amis jardiniers de Jardin Nature 48 ou de Fruits Oubliés, ces gens-là?
Alors souvent, à l'automne, on n'en fait pas beaucoup parce que en fait, il faut quand même déjà savoir un petit peu greffer. Pour les arbres, les fruitiers à noyaux, hein, qui sont donc plus difficiles au niveau de la reprise. Et on préfère faire des ateliers de greffe au printemps. Mais de toute façon, on apprendra la même technique, hein, au printemps, qu'on pourra se servir à l'automne suivant. Préciser quand même, pourquoi est-ce qu'on en fait à l'automne, pourquoi est-ce qu'on en fait au printemps? Comme je viens de vous dire, les arbres fruitiers à noyaux ont plus de mal à cicatriser. Donc, quand on greffe au printemps, on leur demande non seulement de cicatriser, mais tout de suite de pousser en végétation.
On leur en demande trop au printemps.
Voilà. L'avantage à l'automne, c'est que la seule... on va non pas être à œil poussant, mais à œil dormant, hein, c'est-à-dire le petit œil qui était à la base du pétiole, il ne va pas du tout démarrer, puisqu'en fait, la plante sent que l'hiver arrive. Donc, la seule fonction au niveau de la sève, ça va être juste de cicatriser, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'air qui puisse rentrer. Je vous disais tout à l'heure, on laisse le pétiole, parce que le signe de reprise, ça va être justement quand ce pétiole va tomber tout seul. Hein, une greffe qui n'aura pas pris, tout va sécher, donc le pétiole restera sur le greffon, alors qu'une greffe qui a bien pris, eh ben l'arbre, une fois qu'il aura cicatrisé, il va de lui-même couper le courant de sève vers le pétiole et le pétiole va tomber.
Alors, j'essaie de résumer brièvement ce que tu viens de nous dire, Jackie, enfin, notamment en ce qui concerne les périodes. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de voir des greffes au printemps. Donc, tu dis qu'on peut aussi greffer à l'automne, qu'en plus, la plante se fatigue moins puisqu'elle fait moins de choses à l'automne qu'au printemps. Donc, du coup, elle peut se concentrer sur la cicatrisation de la greffe. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des arbres que tu conseillerais plutôt de greffer à l'automne et d'autres que tu déconseillerais de greffer à l'automne?
Déconseiller de greffer à l'automne, pas vraiment. À la limite, si on a des arbres à pépins, eh ben, il fallait mieux le faire le printemps précédent puisqu'eux, ils vont bien pousser. Donc, ça fera perdre une année.
Donc, pas les pépins.
Mais c'est pas grave.
C'est pas grave,
En même temps, si on n'a pas greffé au printemps parce qu'on n'a pas eu le temps, on peut très bien le faire justement à l'automne comme ça.
Oui.
Et ça démarrera tranquillement au printemps. On n'aura pas besoin de rechercher une date particulière, de voir comment le temps va se comporter, etc. On a souvent des beaux automnes ici, donc ça fonctionne très bien de le faire à l'automne.
D'accord.
Mais voilà, l'essentiel, c'est pour la difficulté sur les arbres à noyaux, ça va être moins difficile. Donc, c'est toujours, quand on apprend à greffer, faut essayer sur le moins difficile, puisque c'est le succès qui va faire qu'on va avoir envie de recommencer. Et donc, plutôt les noyaux à l'automne et les pépins au printemps.
Allez, pépins au printemps, noyaux à l'automne.
Voilà.
C'est repéré, ça. Tu as tout dit ce que tu voulais nous dire sur les fruitiers, Jackie, de greffe.
En termes, tout dit sur les fruitiers, c'est pas. Non, là, je pense qu'il faut rester assez simple. Hein. On est aussi à la disposition s'il y a des questions là-dessus.
Oui.
En fait, déjà, j'ai du mal à utiliser les termes précis, mais qui soient pas trop technique, et je pense que l'explication est suffisante. Après, il y a tout un tas de petits détails qui font qu'en fait, il va y avoir des meilleurs greffeurs. La pratique, il faut pratiquer, et il faut pas se contenter quand on n'a pas réussi. Il faut pas se dire, je suis pas un bon greffeur. Il faut en refaire, et justement, on peut faire et au printemps et à l'automne quand on n'a pas encore bien la main, ça donnera d'autant plus de chances de réussir.
C'est en greffant que l'on devient greffeur.
Voilà.
Voilà, on va faire une petite pause musicale avant d'attaquer la deuxième partie de notre émission qui sera dédiée au compostage. Quelle chance! Et petite pause musicale avec Gaël Fayé, Tôt le matin.
D'Orient, sous les tuves, les fumées d'encens, brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes, hume les fleurs, leur senteur navrante, laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée des vies, prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des fous, la fine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, ougan, empereur de brigands, maquin d'albois, caïman, écris des récits ou te cogner à des récifs, une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Entre les vies, écrit la vie entre les lignes, fuis l'ennui des villes, les buts, si ton cœur lui aussi s'abîme. Hasta la vista, je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là, attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras, traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats, m'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat, affûter ma lame pour replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat, rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux, des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence, la foule est un zombie et je vogue à contre-sens. Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle.
gratter la lune que tous la voient. Devenir vent de nuit, pousser la voile et s'enfuir vers des rives là-bas.
Et voilà, Jackie, c'était beau, hein ? Ça t'a plu ?
Très bien.
Pas de commentaires. Alors, nous revoici pour cette deuxième partie d'émission, Cultivons notre jardin, toujours en direct avec Jackie. Et de quoi allons-nous parler maintenant ? Bien, nous allons parler du compostage. Tout simplement, pourquoi ? Alors, parce que nous sommes une émission 100% locale. L'idée, c'est bien de réagir sur et d'interagir avec ce qui se passe autour de nous. Et là, en ce moment, commence une distribution de composteurs à destination des habitants de la communauté de communes Cœur de Lozère, la Centre Lozère. Donc ça se réalise dans le cadre du PLPD. Mais qu'est-ce que c'est le PLPD, me diras-tu, Jackie ? Il s'agit du programme local de prévention des déchets. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de moins produire de déchets, voilà, à l'avenir. Et le compostage est une excellente façon, en fait, de réduire son volume de déchets, hein, puisque c'est plus de 30% de nos poubelles qui sont composées d'éléments compostables. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben non, il faudrait que tu nous parles un petit peu du compostage, parce que toi, Jackie, ça c'est un truc que tu maîtrises, le compostage, on est d'accord ?
Oui, alors oui. Voilà, il y a deux grandes techniques, hein, ou bien on le fait en tas au coin du jardin, ou bien on le fait justement avec des composteurs. Hein, et l'idée amende, c'est bien d'initier des gens à le faire avec le composteur.
Oui.
Après, voilà, il y a des moyens techniques, hein, pour avoir les composteurs. Nathalie, tu nous en parleras tout à l'heure. Mais
oui.
Là, une fois que vous allez avoir votre composteur, où est-ce que je vais le mettre dans le jardin ?
Première question.
Alors souvent, c'est lié à l'odeur. Les détracteurs trouvent que ça sent mauvais. Si le compost est bien fait, ça ne sent pas mauvais. Donc déjà, on n'a pas cette contrainte-là. Par contre, il faudrait avoir une exposition mi-ombre. Moi, l'idéal, ça peut être exposé à l'est, par exemple, un petit peu de lumière le matin, mais surtout ne pas avoir les grosses chaleurs de l'après-midi sur mon composteur.
Oui, en plein soleil, ça.
Voilà, en
ça
plein
bulle.
Soleil, parce qu'après, il va falloir que j'arrose.
Hein, et oui, ça
donc
sèche.
Donc aussi, c'est pas une bonne idée, d'un côté, de faire attention à l'environnement et de l'autre côté, de rajouter de l'eau. Donc, la première chose, c'est l'exposition. Donc, mi-ombre, pour moi, hein, donc, c'est un peu une exposition. La lumière, c'est pas mal, mais il n'en faut qu'un petit peu, et surtout pas trop de chaleur. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est couvercle ou pas couvercle. Moi, je fais aussi dans des composteurs, hein, pas seulement en tas. Et en fait, j'ai banni le couvercle. Ce couvercle qui est justement une espèce de garantie contre les mauvaises odeurs. Je vous garantis que ça ne sentira pas mauvais si vous faites un peu comme je vous dis. Donc pour moi, le couvercle, il ne faut pas le mettre. Parce que vous allez avoir un compost qui va chauffer. En chauffant, ben, il y a de l'eau qui va s'évaporer. Et en fait, vous allez être obligé de réarroser. Moi, je ne mets pas de couvercle parce que quand il pleut, comme ça arrose mon compost de façon naturelle.
Oui, parce que le compost, il doit avoir un taux d'humidité constant à peu près.
À peu près.
C'est ça, hein, qui est,
en tout cas, pas se dessécher. Parce qu'à partir du moment où le compostage va se faire avec des micro-organismes, hein, que ce soit les collemboles, des toutes petites bestioles comme ça, il y a même des bactéries dedans qui vont se développer et ça va aller jusqu'au ver de compost, toutes ces petites bestioles, entre guillemets, vont avoir besoin d'air et d'humidité. Hein. Si ça se dessèche, si tout meurt, eh ben, les matières ne vont pas arriver à se composter.
Comme donc toute bestiole, oui.
Il faut bien le comprendre. Mm-mm. Alors, ensuite, on va essayer de voir quelles sont les matières à composter. Hein. C'est toujours une question qu'on se pose. Qu'est-ce que je peux mettre ? Qu'est-ce que je ne peux pas mettre au compost ?
Oui, alors.
Alors.
Un point clair, Jackie. Qu'est-ce que je peux mettre au compost ?
Alors, moi, la façon dont je fais, si je veux avoir un compost qui soit bio, hein, pour cultiver bio, eh bien, il va falloir que je ne mette rien du tout dans mon compost dont je ne sois sûr de la provenance.
Oui, c'est très exigeant.
Oui, mais c'est-à-dire que les épluchures de pommes, eh bien, c'est plutôt venant de la Biocoop que de l'Hyper-U que je vais que je vais mettre, parce que non, si je sais pas, c'est vrai que les pommes, il y a jusqu'à 56 traitements hein, sur les pommes, la façon dont ils sont faits. Ces traitements se retrouvent obligatoirement dans la pomme. En grande partie même dans la peau de la pomme. Ouais. Si je vais composter ça, eh ben ça veut dire que je remets du produit chimique dans mon compost.
Évidemment.
Et donc, je vais en remettre dans mon jardin.
C'est ça.
Donc, il ne faut pas se focaliser sur le fait de « Ah bah oui, mais je voudrais mettre un maximum de choses pour avoir un maximum de compost. » Ce n'est pas le maximum qui compte, c'est vraiment la qualité.
Moi, j'ai une idée. Pour ceux qui mangent des pommes non bio, mais mangez la peau aussi. Hein.
Voilà, oui.
Il faut faire les choses comme il faut.
Voilà. Non, mais ça, c'est vrai aussi pour beaucoup de choses. Hein. Citron, orange, par exemple, je ne sais pas d'où ça vient. Il faut savoir que beaucoup de fruits comme ça, même cultivés bio, peuvent aussi avoir des traitements après récolte.
Ah oui, il ne faut pas que ça vienne. Puis il ne faut pas que ça vienne de trop, là, le bio aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes exigences.
Voilà.
Hein.
Donc, des produits dont je suis absolument sûr.
Voilà. Donc, on ne met dans le compost que des végétaux.
Des végétaux, des... Non, ça peut être... Oui, ça peut être des produits qu'on appelle organiques, hein, qui ont été des produits vivants comme ça. C'est comme ça que ça va se transformer. Donc, c'est vraiment un maximum de végétaux. Si certains mettent de la viande ou des choses qui vont pouvoir attirer des bestioles ou la... En fait, moi, je déconseille tout à fait tout ça. Pour moi, les engrais organiques comme ça... Bon, je ne dis pas une petite souris qui est morte dans un coin. Vous pouvez très bien la mettre dans le compost.
C'est délicat.
Mais ça peut... Moi, j'ai vu aussi des gens qui compostaient, mais qui... une limace morte ou autre, on le met au compost. C'est de l'amendement organique. Ça va devenir un amendement organique. Donc, c'est important à savoir.
Je tenais quand même à souhaiter bon appétit à nos chers auditeurs. Merci, Jackie.
Ah oui, mais ça... alors ça, c'est quelque chose d'important. Hein. Moi, j'ai fait pousser dans le compost des potirons, par exemple, choses comme ça. Eh bien, des gens étaient étonnés que ça n'ait pas de mauvaise odeur, la plante. Hein. Sachez que pour que ça pousse bien, il faut que ce soit bien décomposé. Une fois que c'est bien décomposé,
ça sent pas mauvais.
C'est souvent une manière de savoir si son compost est prêt. On en prend une poignée, on le renifle, on le met sous le nez et ça doit sentir comme le sous-bois. Ça, c'est...
D'accord.
Et si ça sent un peu mauvais, certaines odeurs, etc., ça veut dire qu'il n'est pas encore bon, il n'est pas encore fait.
Donc, ça doit sentir un peu comme le champignon, finalement. Si ça doit sentir un peu le sous-bois, ça sent le champignon, sous-bois.
C'est ça, et la fraîcheur. Hein,
et la fraîcheur, on en parlera de champignons, tiens, tout à l'heure. Voilà. Ça t'apprendra.
Voilà. Donc, deux grandes catégories dans les matières qu'on va mettre sont des matières azotées, hein, tout ce dont on vient de parler. Donc, tous ces produits organiques là, qui vont se décomposer, qui vont faire une espèce de pâte noire. L'intérêt pour le compost, pour bien l'équilibrer, c'est aussi de mettre des matières carbonées.
Hein, oui.
Donc riches en carbone. Des matières riches en carbone, c'est la paille. La paille, là aussi, attention, d'où est-ce qu'elle vient ? Est-ce que c'est bio, etc. Le foin, mais ça peut être aussi... Le foin, c'est l'herbe séchée qu'on a récoltée, nous, dans notre jardin.
Les feuilles séchées ?
Les feuilles. Et on peut même mettre aussi du carton. Hein, le carton gris ondulé, seule précaution, c'est
qu'il n'y ait
pas d'encre dessus parce qu'il y a du plomb dans l'encre d'imprimerie. Et donc, voilà. Mais je vais équilibrer. Mon compost ne doit pas être desséché. Il ne doit pas être gras, une espèce de pâte noire. Sinon, c'est que c'est un déséquilibre.
C'est qu'il est trop humide si ça fait une pâte noire.
Voilà,
hein, c'est ça.
Trop humide et trop riche en azote. Donc, à ce moment-là, je vais remettre du carbone dedans.
Et du carbone, c'est ?
C'est la paille, le foin. Et alors, à savoir aussi que, par exemple, le foin, pour moi, c'est un des meilleurs, meilleurs apports qu'on peut faire, parce que dans le foin, il y a déjà aussi tout un tas d'oligo-éléments que la plante aura puisé dans le sol et qu'en fait, ça va se retrouver dans le compost et je vais le réutiliser pour mon sol. Donc, je vais ramener à la terre ce que des plantes auront pris.
Oui, parce que c'est plein de plantes différentes, le foin.
Et donc quand je désherbe un petit peu mon jardin, je le mets aussi au compost. Hein. À partir du moment où il va y avoir un bon compostage, il va y avoir une chaleur au niveau de ce compost. Et donc, même des petites graines de mauvaises herbes, hein, comme beaucoup de gens les appellent, vont pouvoir se consumer à l'intérieur du compost. Et donc, en fait, je n'aurai pas le désagrément d'avoir, quand je vais remettre mon compost, des plantes un petit peu partout dans mon jardin, comme ça peut se passer des fois avec du fumier de mouton ou autre, parce que les sucs digestifs du mouton
ne
viennent pas à bout de certaines graines.
Exact. Voilà. Ouais. OK.
Voilà.
Est-ce que tu saurais nous dire, là, comme ça, grosso modo, en proportion, combien il faudrait de matière carbonée, en donnant des exemples, hein, parce que sinon...
Alors, c'est quasiment moitié-moitié.
Hein. D'accord.
Souvent, on pense pas assez à faire ces apports carbonés. Hein. Mais là, on s'en rend bien compte. Hein. Si on a une pâte, j'insiste là-dessus, hein, une espèce de pâte comme ça, ben, c'est qu'on met trop nos épluchures, etc. Ben,
soit vous avez trouvé du pétrole dans votre jardin, soit votre compost n'est pas assez carboné.
Carboné, hein, parce que, mais surtout en ce moment, moi, quand on fait du jus de raisin, et ben, le mou du raisin, on va le mettre aussi au compost, etc. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir mettre comme ça. Donc souvent, quand le compost est trop pégueux comme ça, et ben, ça veut dire qu'il va manquer de matière carbonée.
Voilà, donc de végétaux secs, du foin, de la paille, des feuilles séchées, du carton, voilà.
Voilà.
OK. Bon, ben c'est clair comme ça, il me semble.
Voilà, et puis après, ben, on est toujours là aussi pour les questions. Hein.
Oui.
Questions particulières. Je le disais un petit peu au début, mais je pense que ça, c'est un phénomène important. Ne cherchez pas à avoir un trop grand compost, trop gros compost, donc à y mettre un maximum de choses. Mais par contre, d'être sûr de ce que vous mettez dedans, que ce soit des produits sains.
Voilà. Le mieux, c'est l'ennemi du plus.
Et réciproquement.
OK. Et alors, tu en voulais un composteur, toi, Jackie, hein ? C'est ça ? Un de plus, hein, pour tes jardins ? Tu ne sais pas comment faire.
Je ne sais pas comment faire. Ah. Hein, si au moins j'habitais à Mende.
Déjà, ça pourrait t'aider parce que c'est réservé aux habitants de la communauté de communes Cœur de Lozère, un peu élargi parce que le programme local de prévention des déchets, il est un peu débordé. Mais bon, c'est trop compliqué, je ne vais pas vous en dire plus. Sachez que vous êtes donc, si vous êtes habitant de Mende et des environs, vous pouvez faire votre demande de composteur sur réservation auprès de Céline Janvier, notre magnifique animatrice du programme local, qui vous répondra au 07 87 61 76 79. Si j'ai dit le numéro trop vite que vous n'avez pas eu le temps de noter, n'oubliez pas que nos émissions sont toutes réécoutables sur le site internet. Voilà. Et en fait, ce qu'elle va faire, Céline Janvier, c'est qu'elle va commencer à distribuer les composteurs dès ce soir, Jackie. Nous sommes le jeudi 3 octobre en direct. Et dès ce soir, à 17h30, vont être distribués les premiers composteurs donc, qui ont été réservés par les habitants. Voilà. Il leur sera présenté les règles de base du compostage en préambule, bien sûr.
Voilà.
C'est important.
Ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit, j'imagine.
Oui, il y a des chances. Hein.
Il faudrait mieux.
Il y a des chances. Et pour ceux voilà, qui ont vraiment envie de bien faire et qui pourront arriver à y consacrer un petit peu de temps, il y a aussi des formations compostage qui sont proposées par, des animations dans le cadre du programme local de prévention des déchets. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie de Mende, par exemple, ou de votre mairie, si vous n'êtes pas très loin. Et on vous donnera toutes ces informations-là. Voilà pour le compost. Qu'est-ce qu'on voulait dire encore sur le compost, Jackie ?
Eh bien, je crois que c'est déjà pas mal parce que les questions vont se poser au fur et à mesure. Hein.
Oui.
Je pense que quand on démarre un petit peu ça, le compostage, il y a des choses aussi. Se dire, quand est-ce que mon compost est prêt ? Alors, comme je disais tout à l'heure, il va falloir que ce soit tout bien décomposé. En règle générale, il n'y a même plus de petits animaux dedans. Hein. Ils sont partis une fois qu'il n'y a plus à manger. Ce qui sous-entend quand même qu'il y a un moment dans l'année où il faut arrêter de remettre des matières dans mon composteur. Moi, ce que je préconise, ce serait plutôt maintenant. Hein, donc maintenant, il faut recommencer un deuxième tas ou dans un deuxième composteur ou dans un deuxième endroit hein, qu'on peut faire simplement en mettant 3-4 palettes l'une à côté de l'autre.
Ou un premier pour les gens qui vont récupérer leur composteur.
Voilà, ou un premier pour... voilà. Donc, là, ils vont commencer leur compost. Quand est-ce que celui-là, je vais l'arrêter?
Oui.
À mon avis, moi, ce qui est bien, c'est au milieu de l'été prochain. Hein, parce que, donc là, je vais commencer à mettre des produits de la vie courante. Là. Bon, ça ne va pas faire beaucoup. Il va y en avoir beaucoup plus au printemps, hein, quand les salades arrivent, quand tout ça. Donc là, on a pas mal d'épluchures, de choses, tout le début de l'été, tout ça. Et puis, en fait, arrivé au mois de juillet, moi, j'arrête mon compost, là. Je ne mets plus rien dessus. Et à l'automne, je mettrai des feuilles, 20 cm de feuilles dessus pour qu'il passe tout l'hiver comme ça, qu'il garde un petit peu sa chaleur. Et au printemps, on pourra s'en servir. Il sera prêt, on pourra s'en servir. Il y a bien un moment où il faut arrêter pour et que tout se décompose. Et qu'on le, ça ne sert pas à grand-chose de mettre un compost à l'automne. Hein. Il faut mieux le mettre au printemps. Il est très actif comme ça. Moi, je suis un partisan de ne pas labourer profond, donc de griffer les 10 premiers centimètres de sol.
Oui.
Et dans ces 10 premiers centimètres de sol, ben, on va incorporer le compost au printemps et tout ça va se passer nickel. Donc, ou deux composteurs, ou deux tas, ou un tas, un composteur, ou bien voilà, des palettes dans un coin. Ça, c'est à chacun de l'aménager comme ça.
Mais c'est vrai qu'en commençant à l'automne, pour les gens qui ne sont pas trop habitués, par contre, ça a le côté sympa de leur permettre de s'y mettre progressivement, voilà. En fait, et de se poser des questions au fur et à mesure pour être complètement prêt au printemps quand la grosse saison du compostage arrive.
Voilà, et de s'informer, de faire attention aux sites internet. Ils ne sont pas tous bons dans les conseils.
Ah.
Donc là aussi, poser des questions à des gens compétents. C'est vrai qu'au niveau du département, il y a eu beaucoup d'actions, de fêtes comme ça, sur l'utilisation des composteurs. Donc, demandez autour de vous et à la radio si vous avez envie qu'on vous réponde.
Bien sûr, et ce sera avec plaisir.
Voilà.
Voilà pour nos histoires de composteurs. On vous annoncera en fin d'émission avec Jackie dans l'agenda des activités les dates pour les formations justement au compostage qui sont proposées dans le cadre du programme local de prévention des déchets. Voilà.
Ça, vous n'ignorerez plus rien.
Non, voilà, vous n'aurez plus aucune excuse. Voilà, c'est ça. Alors, j'avais des excuses à présenter, moi, Jackie. Tu sais,
oui.
Je t'ai dit.
Oui.
Je ne suis pas très fière, mais... J'ai fait des interviews toute une journée. Et j'ai interviewé plein de gens qui ont été fort sympathiques de bien vouloir me répondre. Et puis quand j'ai ramené l'enregistreur à la radio, là, et ben, on m'a dit, il n'y a rien dessus. Voilà, il n'y a rien dessus. Alors, je voulais dire à Jean-Paul Justamont du Canoë, ainsi qu'à la Fédération de pêche qui ont nettoyé dans le cadre de la journée du World Cleanup Day, le 21 septembre dernier, qui ont nettoyé tout le Lot, la zone de Wunsiedel, tout ça, qui ont ramassé 500 kilos de déchets très rapidement. C'est dommage que ça ne se vende pas plus cher que ça, les déchets, parce que... Bon, bref. Donc, un grand merci à tous ces bénévoles là, qui ont nettoyé. Voilà. Un grand bonjour à Janine du Pétassou de Sainte-Croix-Vallée-Française, qui depuis 15 ans travaille sur le recyclage du textile, la remise en circulation, etc., etc., qui me disait, Janine du Pétassou, que effectivement l'industrie textile est une industrie extrêmement polluante et qu'il faut... vraiment se poser des questions par rapport à notre façon de consommer au niveau vestimentaire, on va dire.
Soyons tous naturistes.
Ah, ben voilà, bonne idée, Jackie. Bon, alors, en Lozère, c'est moins facile, le naturisme. Hein. Il faut être un petit peu costaud, quand même. Hein. Bon, bref.
Ça ne passera pas l'hiver.
Merci à Janine du Pétassou. Merci au groupement des œuvres liquides de Florac, que j'ai rencontré il y a quelque temps, qui est une association sympathique qui permet aux particuliers d'apprendre à faire leur bière. C'est marrant, bien. Ça, hein ?
Ah oui.
Voilà. Donc, on leur souhaite plein de courage et une longue vie. J'avais discuté aussi avec Rosène et Johan du Truck Food Breizinok, qui nous font des crêpes, de véritables crêpes et galettes bretonnes, mais avec des ingrédients occitans et bio. Donc, ils font de délicieuses crêpes. Voilà, j'avais discuté pas mal avec Guillaume Canard aussi, qui fait du théâtre, Guillaume Canard, qui monte une petite troupe de théâtre à la Canourgue et qui nous a joué dans le cadre de la Fête des Possibles, qui nous a interprété un texte qui s'appelle « Je suis un saumon ». C'était exceptionnel, merci Guillaume. Voilà, merci à Élodie Guilloton de la ressourcerie La Récup. On en reparlera dans nos émissions, un acteur important de la réduction des déchets. Et puis voilà, un petit clin d'œil aux Jeunes pour le Climat, qui continue la lutte, qui organise régulièrement des débats citoyens et des plastique attaques dans les supermarchés pour informer les citoyens. Une plastique attaque, c'est pas méchant, hein, c'est juste pour informer les citoyens de comment faire pour réduire ces volumes de plastique. Donc voilà, ce sont des initiatives intéressantes puisqu'ils vont directement sensibiliser les gens sur leur lieu de course, donc c'est bien, voilà. C'est des jeunes qui sont motivés, je leur tire mon chapeau et puis on aura l'occasion de rediscuter, puis peut-être de les inviter même à une de nos émissions. Jackie, pourquoi pas, inviter des gens en direct en fait, hein. Voilà. Voilà, donc auprès de tous ces gens, je vous présente toutes mes excuses et puis on trouvera une solution de toute façon pour vous redonner la parole, avec grand plaisir. Voilà.
Bon, mais écoute, le bilan est fait sur ces interviews du 21 septembre. Tu voulais nous parler de la saison culturelle ?
Qui va ouvrir là. Je vous parlerai des champignons après. Le samedi 12, on ouvre la saison culturelle à Mende. Et donc, pour l'ouverture, à 20h30 au centre-ville, vous avez une déambulation exceptionnelle qui mêle marionnettes géantes, objets animés et musique. Ça s'appelle Mo et le ruban rouge. Et donc, ce sera le samedi 12 octobre à 20h30 au centre-ville de Mende. Et c'est gratuit, bien évidemment.
Alors, la date est prise, mais...
Tu notes, Jackie, dans ton agenda au fur et à mesure.
Mais alors, avant, ce week-end-ci, précisément, il y a les toquets du CEP.
Oui, exactement. Ce vendredi 4 et samedi 5 octobre, au centre-ville de Mende, c'est les toquets du CEP, la fête de l'abeille et de la nature. Donc, dans ce cadre, toute la journée de vendredi et toute la journée de samedi, vous aurez des ateliers cuisine, des cueillettes guidées, des conférences miel et abeilles. Vous pourrez assister à des extractions de miel, toutes sortes de visites à thème, des menus champignons, un marché, des animations, les restaurateurs du centre-ville qui jouent le jeu en vous proposant des menus spéciaux toqués du CEP. Bon, ben, ça devrait être sympa. En plus, il doit faire beau. Donc, venez passer un petit moment avec nous au toqués du CEP et ça peut être sympa. Et tu viendras, Jackie ?
Là aussi, c'est noté.
Moi, c'est noté.
Voilà.
Donc, et tu sais que au toqué du CEP, là, par rapport, ben justement, puisqu'on parle des champignons et du miel et des abeilles, j'ai vu passer des articles. Là, on parle beaucoup du dérèglement climatique parce que nos amis les champignons, n'ont pas assez eu de pluie. C'est tout sec, c'est ça. Hein,
non seulement pas de pluie, mais des températures aussi trop extravagantes. Hein.
Extravagantes, c'est le mot.
Donc voilà, et surtout, ça dure depuis 4 ou 5 ans, comme ça.
Oui.
Et donc, il faut savoir qu'il y a... Alors, on voit des fois certaines choses qui paraissent anecdotiques. Hein. Moi, je vois quand on va dans l'Aveyron, par exemple, au milieu des prés en Aveyron, il y avait souvent des chênes qui ont 200, 300 ans, petit à petit, ils meurent.
Tu les as vus sécher.
Ils se sèchent.
Ouais.
Alors, c'est un de temps en temps,
ouais.
Mais c'est pour dire quand même que l'effet, il est sur la longueur. Mmh. Hein, et sur 4 ou 5 ans où on est en déficit d'eau, même si de temps en temps il pleut, ça ne veut pas dire ça ne rétablit pas tout. Et donc, quand les arbres meurent, c'est aussi parce qu'il y a des champignons qui meurent, hein, parce qu'il faut savoir que tous les arbres ont des champignons en symbiose au niveau de leurs racines. Ouais. C'est ce qui va leur permettre justement de fixer l'eau. Et on est en plein dedans. Un champignon sans eau est un champignon qui meurt. Et le champignon... quand j'en parle comme ça, c'est du mycélium et non pas simplement de l'excroissance qu'on peut voir au niveau du sol, mais justement tout le mycélium qui est sous le sol. Et en fait, quand ce mycélium est mort, ce mycélium qui peut s'étaler sur des milliers de mètres, c'est énorme. Et une fois que c'est mort, c'est mort. Il n'y aura plus de...
Ça revient pas.
Voilà. Donc, ce n'est pas simplement de ne pas voir les champignons, mais c'est surtout que ce mycélium disparaît. Et ça, c'est irréversible. Hein. Une fois que le mycélium est mort, imaginez dans un bois où on trouvait des ceps facilement, il y a peut-être 3 ou 4 mycéliums simplement, mais qui vont faire des quantités de champignons. À partir du moment où les mycéliums sont morts, c'est des centaines de ceps qu'il n'y a plus.
Mais là, tu as trouvé le moyen de toucher le cœur du Lozérien, Jackie, le dérèglement climatique.
C'est une des applications du dérèglement climatique.
Et voilà, malheureusement.
Voilà.
Voilà, bon, voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, youpi tralala. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre, Jackie?
Eh bien, il y avait une question d'auditeur, tu m'as dit tout à l'heure.
Ah oui, exact. Alors, attends, je la retrouve. Ça va aller très, très vite, puisque je suis très organisée, n'est-ce pas, Jackie? Allons-y. Oui, alors, nous avons une question d'Aurélie demande, qui nous demande pourquoi tout un tas d'insectes qu'on n'a pas forcément envie de voir dans la maison y rentrent, et pourquoi les jolis papillons, eux, ne rentrent pas dans les maisons? On a les papillons de nuit qui rentrent, on est d'accord.
Oui.
Mais les jolis, ils ne viennent pas nous voir dans les maisons.
Ils ne viennent pas, parce qu'il faut être attiré. Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans cette question. Déjà, pourquoi les insectes rentrent? Donc, comme tu disais, les papillons de nuit, ce qui va les attirer, c'est la lumière. Donc là, effectivement, les papillons de nuit vont rentrer la nuit. À cause de la lumière. Les papillons de nuit qu'on peut voir dehors, les hygènes, par exemple, qui sont des petits papillons triangulaires comme ça, qui sont des papillons de nuit, mais qui butinent très bien le jour, eh bien, en fait, le jour, on ne les voit jamais rentrer dans les maisons non plus. Hein. Donc, c'est bien la lumière qui les attire.
Les papillons de nuit.
Pour les papillons de nuit. Pour l'ensemble des insectes, en fait, il n'y a pas grand-chose qui les attire dans la maison. Les insectes sont très nombreux quand même, même si on en a de moins en moins. Il n'empêche qu'il y en a quand même des millions et des millions. Et en fait, c'est occasionnel quand ils rentrent dans les maisons. Hein, à part
les mouches. Hein.
À part à l'automne. quand on dit qu'il y a beaucoup d'insectes qui rentrent, bon, les mouches, ça va être à cause des odeurs. Hein. Mm. Les insectes sont très, très sensibles aux odeurs.
Oui.
C'est ce qui va leur permettre de survivre, puisqu'en fait, la mouche de la carotte va être obligée de sentir l'odeur d'une carotte en volant 10 mètres au-dessus du sol pour venir pondre ses œufs sur la plante haute, qu'on appelle, hein, c'est-à-dire celle qui va pouvoir nourrir sa chenille.
On vole au-dessus d'un nid de carotte.
Donc, certains insectes vont rentrer aussi dans les maisons, comme les punaises ou autres, à l'automne, hein, ou les coccinelles, pour essayer d'échapper au froid.
Oui, l'an dernier, j'avais plein de coccinelles à ma maison.
Voilà, ça va être une autre raison. Mm. Et puis, il y a aussi le fait que si on ouvre une fenêtre accidentellement, il y a effectivement un bourdon ou autre qui va rentrer simplement parce que
c'est
ouvert et donc lui, il vole. Alors, les papillons, en fait, ils ont, à part les papillons de nuit, ils n'ont aucune raison de rentrer dans la maison. D'abord, ça vole pas très vite, donc ça pourra éviter effectivement une façade, même si la fenêtre est ouverte, il va pas y aller. Et surtout, c'est un mangeur de nectar. Le papillon, en fait, il mange le nectar des fleurs. Les plantes produisent du nectar uniquement pour les insectes qui mangent du nectar. Parce que ces insectes vont arriver à polliniser les fleurs qu'il y a dessus.
Et alors, nos plantes d'intérieur, il n'y a aucune chance qu'elles produisent du nectar pour attirer les papillons?
Elles peuvent, hein, puisque dans les forêts tropicales, par exemple, donc puisque nos plantes dans la maison sont souvent issues de forêts comme ça, hein, puisqu'il faut qu'elles puissent vivre à l'ombre, donc à l'ombre des grands arbres ou à l'ombre d'un appartement. Et elles peuvent produire du nectar. Ce qu'il y a, c'est que si on en avait beaucoup dans la maison et qu'on ouvre à ce moment-là, peut-être aurions-nous quelques papillons. Mmh. En ce moment, on en voit bien, hein, comme ça, quelques papillons avec leur grande trombe qui viennent butiner comme ça. La trombe va servir à ça, va aller au centre de la fleur pour aller puiser le nectar qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans la maison, pas de nectar, très peu de plantes fleuries, hein, quand tu parles des plantes d'appartement.
Pas de bras, pas de chocolat. Donc, pas de papillons.
Pas de nectar, pas de papillons. J'espère que ça répondra un petit peu à la question d'Aurélie.
Eh bien, écoute, j'imagine, c'est une réponse très complète. Merci beaucoup, Jackie.
Avec plaisir.
Si ce n'était pas suffisant, Aurélie, n'hésitez pas à nous recontacter. Hein. Alors, ensuite,
On va parler un peu de l'agenda des activités, hein, ayant plus ou moins directement à voir avec le jardin. Et tu vas commencer par nous parler animation.
Oui, puisque le 12 octobre, le samedi 12 octobre à 9h30, on a une première formation compostage à Barjac avec l'ALEP. Donc, c'est une formation qui est ouverte au grand public, mais sur inscription. Hein. Donc, pareil, vous contactez Céline Janvier du PLPD à la mairie de Mende et elle pourra vous inscrire. Donc, c'est avec l'ALEP, l'Association Lozérienne d'études et de protection de l'environnement.
Exact.
Bravo.
Le lendemain, le dimanche 13 octobre, toute la journée, à Chanac, il y aura la première fête de la noix. Il faut savoir que Chanac était le pays des noix. Donc, quelques variétés locales, etc. Donc, il va y avoir des stands, des animations autour de cette première fête de la noix. C'est à Chanac, c'est le 13 octobre. Venez-y nombreux. Vous pourrez nous y retrouver parce qu'il y aura un stand Verger de Lozère, un stand Jardin Nature 48. Voilà, donc vous retrouverez des jardiniers.
Et le noyer, on peut le greffer à l'automne ou...
Non, pas du tout.
Perdu.
Au printemps.
Le noyer n'est
au printemps, et c'est très difficile.
D'accord.
Voilà.
C'est très difficile à greffer tout court.
Oui.
Ah.
Oui.
Ok, merci Jackie.
Alors peut-être un jour on fera un spécial greffe et on pourra en parler. Tu avais d'autres animations du PLPD ?
Oui, oui, oui. Alors, une un petit peu différente le 15 octobre prochain, donc à 14h30, il s'agit d'un atelier fabrication de produits ménagers. Soi-même, là, bien sûr. Et tawashi, c'est les petites éponges là qu'on fait avec les chaussettes. Et ça, c'est pour les résidents de la résidence... Les ateliers sont réservés aux résidents de la résidence Piancourt, la résidence pour personnes âgées. Excusez-moi, c'est compliqué. Oui. Ensuite, le 16 octobre, par contre, là, cette fois, c'est pour le grand public. Mais c'est juste pour vous dire qu'on essaye d'aller un petit peu partout pour informer les gens et voilà, faire bénéficier des animations dans le cadre de la prévention des déchets. Et donc, le 16 octobre, à 14h, une nouvelle formation, compostage amande. Donc, avec l'ALEP, toujours. Et donc, c'est une formation qui est ouverte à tous le 16 octobre prochain.
Bon, alors, après, si vous êtes à vos agendas, on en reparlera sans doute, parce que c'est le 27 octobre. Mais déjà, c'est peut-être une date à cocher sur l'agenda. Il y a le foyer rural Tarnon-Mimante qui organise la deuxième fête des vergers à Vébron. Donc, ça se déroule toute la journée. Là aussi, il y a des stands, conférences, ateliers. On pourra faire j'animerai un atelier de taille, conférence aussi sur la taille le matin. Et puis, voilà, projection de films, exposition de fruits, détermination fruitière. Alors ça, c'est quelque chose peut-être qui mérite une petite explication.
Oui.
Pour connaître une variété de fruits que vous pouvez avoir chez vous ou chez un voisin ou au bord de la route. Hein, des fois, on a comme ça des fruits qui sont bons, mais on ne sait pas au juste quelle variété c'est. Eh bien, il suffit d'amener 5 ou 6 fruits représentatifs de la production dans un petit sachet en papier. Et il y aura une pomologue spécialiste qui pourra déterminer la nature de ce fruit et donc la variété. Il y aura aussi une table de troc de plantes. Donc là aussi, plantes, graines, etc. ou matériel de jardin, si vous avez des choses à troquer. Ou bon, on troque même contre un sourire et ça marche aussi. Voilà, des stands associatifs, tout ça. 27 octobre. À Vébron.
Voilà, ça va être une belle journée, effectivement. J'essaierai de venir, Jackie.
Ce serait bien.
Et si tout ce que vous raconte Jackie au sujet des fruitiers vous a un petit peu titillé, eh ben, je crois que c'est vraiment là qu'il faut aller parce que vous allez découvrir plein de choses.
Ce sera avec plaisir, en tout cas, qu'on accueillera un maximum de gens.
Voilà. Bon, pour commencer ce week-end, vous allez commencer à aller au Toquet du CEP, sortir de chez vous, aller voir les gens et discuter. Et ça va être sympa. Et nous, on va vous laisser maintenant, hein, Jackie ?
Et oui, puis on va se donner rendez-vous alors pour le direct dans 15 jours, à savoir aussi que cette émission sera rediffusée la semaine prochaine. Donc, comme le jeudi et le dimanche, le jeudi, c'est à 12h30 et le dimanche, c'est à 9h.
Bravo !
J'ai tout bon, là ?
Ouais, là, je crois que c'est bon. Alors, voilà, on vous dit au revoir et puis on vous laisse avec Gaël Fayet, toujours, hein, puis c'est la série, c'est Petit Pays, maintenant. À bientôt.
Wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Kaugu katoyi, kaugu kaniniya, warapun weni wapuye, warago weni wagoka. Kaugu katoyi, kaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant trois mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce 10 mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Kaugu katoyi, kaugu kaniniya, warapun weni wapuye, warago weni wagoka. Kaugu katoyi, kaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps en silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Kaugu katoyi, kaugu kaniniya, warapun weni wapuye, warago weni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Kaugu katoyi,
kaugu
kaniniya, warapun weni wapuye.